Que le nom de Jésus soit béni. Bonjour mes frères et bonjour mes sœurs. Que la paix et que la grâce de notre Dieu ce matin soit le partage de nous tous, à nous qui ce matin portons ce titre glorieux d'enfants de Dieu, à nous qui sommes ce matin bien-aimés du Père, à cause de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, à nous qui sommes devenus des enfants de Dieu, eh bien, gens de la maison de Dieu, ceux que sa main conduit, ceux qui un jour il a arrêté son regard, comme elle a pu dire dans son cantique, Marie, bénissant Dieu de ce qu'il a jeté sur sa servante, un regard de compassion sur sa bassesse. Amen. Vous savez, quand Dieu intervient dans une vie, eh bien nous, le premier concerné, on reconnaît notre faiblesse, notre misère, nos limites, mais on le glorifie de ce qu'il a eu pitié et compassion de nous. Amen. Et nous sommes heureux ce matin d'être de cela. Béni soit Dieu. Eh bien, bien-aimés, tout de suite, je vais me libérer des annonces pastorales pour que nous puissions, comme a dit notre frère, eh bien, laisser le Seigneur Jésus-Christ ce matin nous conduire dans les pâturages célestes, les pâturages divins, où il a préparé la nourriture pour notre âme comme ce qui convient pour ce matin, nourriture autant convenable. Et dans la nourriture que Dieu nous donne, rassurons-nous, il y a tous les ingrédients spirituels dont notre âme a besoin. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que, comme un père de famille, eh bien, écoutez, je vais changer mon énoncé. Je suis un père de famille, voilà. Et je sais que, en tant que tel, vous savez, je sais que concernant mes enfants, eh bien, il fallait varier la nourriture. Mais oui, je ne leur donnais pas tous les jours des saucisses, une aquietta avec de la purée. C'est facile. Non, ils ont besoin, aujourd'hui c'est du foie de veau, même si c'est cher. Oui. Parce que je sais que le foie de veau a des apports nutritifs utiles à leur développement. Demain, c'est du poisson. Après demain, c'est un autre aliment parce que l'enfant a besoin, pour son développement, que les aliments lui procurent les éléments nécessaires afin qu'il puisse se constituer. N'est-ce pas? Dieu nous permet d'être en France. Et nous ne sommes pas comme certains pays où il y a la pénurie, où c'est difficile. Donc Dieu nous fait la grâce de pouvoir, avec un minimum, pas besoin d'avoir une grande capacité. Il y a des supermarchés qui ne sont pas trop chers. Donc on peut aller, puis par la grâce de Dieu, acheter ce qu'il faut pour que nous puissions avoir de la nourriture. Bénissons Dieu, frères et sœurs en Christ. Nous ne croyons pas que tout est acquis et que partout c'est pareil. Non, il y a des pays où il y a dans ce cadre-là de la famine, des souffrances. Mais Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous nourrir du mieux que nous pouvons, sans faire des folies et de l'excès. Parce que n'oublions jamais que tout ce dont on fait un excès, eh bien, cela s'appelle de la débauche. La débauche prend son effet dans tout ce qui est à considérer comme excessif, soit de la nourriture, soit autre chose, vous m'avez compris. Mais béni soit Dieu. Il nous donne dans ce cadre-là autant ce qu'il faut, mais aussi de l'équilibre alimentaire. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est le même processus pour le bon berger. Hier soir, c'est moi qui étais de service, et bon, je lui ai donné la parole qui convenait pour que notre âme soit nourrie. Voulez-vous savoir de quoi nous avons parlé hier soir? Non, ça ne vous intéresse pas. Si? Ah non, ce n'est pas le vêtement, mon frère. Le vêtement, c'était dimanche dernier, mon frère. Ouais, je te dis, hier soir, tu n'étais pas là hier soir. Hier soir, nous avons considéré, en regardant dans les Saintes Écritures, cette parole de l'Épître de Paul aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Les capacités que Dieu confère à ses enfants. Dieu nous donne des capacités, c'est-à-dire qu'il travaille à ce que nous puissions avoir des capacités comme des acquis. Puis l'apôtre aux Colossiens bénissait Dieu lorsqu'il disait dans Colossiens 3, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume du Fils de son amour, en Jésus-Christ. » Amen. « Rendu capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Ça, c'est la vie de piété. Amen. Gloire à Dieu. Capable de nous exhorter les uns les autres. C'est la pratique de la miséricorde, accompagnée de la compassion, mais dérivée de l'amour. Vous êtes toujours là? Oui, alléluia. Et puis, frères et sœurs en Christ, finalement, il faut que nous comprenions ceci dans le psaume, ou non pas dans le psaume, dans Ésaïe 26, le prophète déclare éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Vous l'avez dit, finalement, frères et sœurs en Christ, quand on fait le tout, tout vient de Dieu. Et si tout vient de lui, tout est par lui. Alors si tout vient de lui, tout est par lui, tout doit être pour lui, en Jésus-Christ. Amen. Donc ça veut dire que dans cette affaire-là, plus Dieu permet que nous soyons utiles dans sa main, plus le Saint-Esprit nous rend petit à nos yeux, humble. Et puis, plus nous sommes humbles, plus le Seigneur peut permettre que nous soyons utiles dans sa main. Gloire à Dieu. Vous savez, Dieu ne va jamais utiliser les orgueilleux. L'humilité, un trait de caractère qui était en Jésus-Christ, à nul autre pareil. Et que le Saint-Esprit se plaît à développer dans l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais cette humilité-là, mes bien-aimés, je ne vais pas vous enseigner ce matin, puisque j'ai dit que je fais les annonces. Mais cette humilité-là, elle ne peut être que le résultat produit par le Saint-Esprit quand je suis né de nouveau. Amen. Et elle s'accompagne, elle se développe quand je suis en communion avec Jésus. Plus je vis près de Jésus, plus je serai petit à mes yeux. Amen. Quelqu'un avant moi a dit, lorsqu'on lui a posé la question, es-tu le Christ? Il a dit, je ne le suis pas, je ne le suis point. Et comme les gens veulent toujours savoir ce que vous dites de vous-même, eh bien, il a dit de lui-même, eh bien, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et puis, il dira que je ne suis pas digne en me baissant de délier les couilles de ses chaussures. Puis il continuera en concluant, il faut qu'il croie ce que je diminue. Amen. Et ce matin, le même processus pour nous, il faut que Jésus croisse en nous et que nous diminuions. Gloire à Dieu. Alors, la première annonce. Eh bien, elle va consister pour moi à vous donner les salutations à vous qui ce matin nous rendez visite, qui êtes de passage parmi nous. Nous vous souhaitons les bienvenus. Salutations fraternelles, pastorales. Si vous venez de la proche ou lointaine banlieue, bienvenue ce matin. Y a-t-il de ceux qui nous rendent visite? Levez la main, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous dire bonjour. Comme on ne vous voit pas très bien, alors mettez-vous debout. Mettez-vous debout, ce sera mieux qu'on vous voit, voilà. Voilà, bien que Dieu vous bénisse, voilà, il y a quelques visiteurs. C'est une joie pour nous ce matin de vous souhaiter les bienvenus. Je sais que vous venez de la Martinique, bienvenue. Non, la Guadeloupe, non. Vous venez d'où? Ah ben, Haïti, c'est un petit peu plus loin. Ah ben, mais bienvenue quand même. Jésus aime les Haïtiens. Président d'Haïti, monsieur Laplante. Je l'appelle président d'Haïti parce que je vois qu'il a une tête de président, mon frère Laplante. Béni soit Dieu. Amen. Voilà. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Et vous, monsieur, vous venez d'où? Ah, de Paris, d'accord. Bienvenue. Bienvenue. Et puis, ceux qui sont là-bas, Dieu vous bénisse. Voilà. Allez, asseyez-vous, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons ce matin les bienvenus. et que Dieu, au travers de sa parole, dans quelques minutes, vous fasse du bien. Dans les services de la semaine à venir, donc cet après-midi, c'est le pasteur Célestine qui va annoncer l'Évangile pour pouvoir amener les âmes à la rencontre de Jésus-Christ pour devenir leur sauveur. Et puis mardi, si Dieu le veut, pasteur Gentil sera présent, donc c'est moi-même, pour la réunion de prière de 18h, je serai là. Et je serai encore là samedi, si Dieu veut, pour le culte de 18h, comme je l'ai été hier soir, et puis dimanche toute la journée, le matin et l'après-midi, ce sera le pasteur Célestine qui sera au poste. Mais rassurez-vous, je ne serai pas loin, je serai à côté de lui. Alléluia. Parce que là, malheureusement, bien, notre pasteur Moïse Arou, il a quelques petits soucis avec sa hanche, il a du mal à marcher, donc il continue à se soigner. Donc le Seigneur, dans sa grâce, lui fasse du bien. Et peut-être, bien, d'après ce qu'il m'a dit, les choses vont se régler dans quelques temps, mais laissons le Seigneur amener son serviteur eh bien, à sortir de cette impasse, afin que nous ayons la joie de pouvoir partager avec lui le ministère dans la communion fraternelle. Y a-t-il de ceux qui partent en vacances ? De ceux qui partent en vacances, voulez-vous lever la main, s'il vous plaît ? Mettez-vous debout, les futurs vacanciers. Je sais que le pasteur Célestine a parlé de vous tout à l'heure, mais nous allons aller un peu plus loin dans cela. Nous allons vous remettre à la grâce de Dieu. On va prier le Seigneur pour que, dans sa bonté, bénisse votre départ, etc. Et puis que vous passiez là où vous serez un bon séjour. Prions. Notre Père Céleste et notre Dieu, voici tes enfants qui, en signe de témoignage, suite à la question qui leur a été posée, se sont mis debout pour montrer qu'ils vont partir en vacances, Seigneur, dans quelques temps. Il est bon que nous confions à ta grâce nos projets, que nous les remettions entre tes mains. Alors mon frère Célestine, mon frère Gérard, qui est un ancien, les diacres et moi-même, ainsi que l'Église, nous confions à ta grâce nos bien-aimés, te priant dans ta bonté, Père, de bénir leur départ en vacances, de bénir leur trajet, de bénir leur arrivée à destination. Et puis, mon Seigneur, lorsqu'ils sont arrivés, veuille, nous te prions, bénir leur séjour et que, dans ta grâce, avec ta sainte et bonne protection, tu leur accordes de prendre du bon repos. Afin que, mon Père, après ce temps de repos, nous te prions que le témoignage de Jésus-Christ soit rendu au travers leur présence et que tout lieu que fouleront la plante de leurs pieds soit un lieu conquis par le témoignage de Jésus-Christ au travers eux, comme du sel pour la terre, mais aussi comme la lumière pour le monde. Et après, mon Seigneur, notre Père, veuille, nous te prions, bénir le retour, et que tu nous donnes la joie de le retrouver en bonne santé spirituelle, et ainsi qu'en bonne santé sur le plan physique, à la gloire de ton nom, Père, et au nom de Jésus de Nazareth. Et nous disons ainsi, Amen. Asseyez-vous. Voulez-vous que nous, maintenant, que nous puissions nous occuper de notre âme ? Oui. Eh bien, pour nous occuper de notre âme ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et puis, en ouvrant vos Bibles, vous allez vous arrêter à l'Évangile de Marc et vous allez vous arrêter au chapitre 6. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1er. Marc 6, verset 1er. Le maître est là, amen. Le maître est là, comme Marc, Martha dit à Marie, le maître est là, et elle a rajouté, et il te demande. Que Dieu soit béni. Dimanche dernier, nous avons vu, au travers d'un texte d'Ésaïe 61:10, comment le Saint-Esprit conduit le prophète Ésaïe à mentionner « Je me réjouirai en l'Éternel et mon âme sera ravie d'allégresse car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a habillé, il m'a revêtu des vêtements du salut et il m'a habillé du manteau de la délivrance. » Puis nous avons vu comment, au travers du développement, les vêtements, mais du salut, un salut, mais avec plusieurs vêtements. Et on a vu comment le Saint-Esprit a développé à partir de la rédemption qui est le rachat par le paiement d'un prix. Deuxième vêtement, l'expiation qui nous met en évidence l'importance du prix payé, l'acceptation des souffrances par Jésus pour payer le prix du rachat de notre âme, souffrance imposée, mais aussi souffrance acceptée, qui n'est pas autre chose que la compensation du délit, non pas que Jésus a commis, mais que nous avons commis, pour que Dieu soit apaisé quant à son courroux et son jugement sur le pécheur, le transgresseur. Toute transgression devant Dieu a droit à une juste rétribution. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes sur le terrain de l'expiation. Jésus a expié nos fautes, victime expiatoire pour nos péchés. Et puis, aussitôt après, nous devons considérer le troisième vêtement qui accompagne. Mais n'allez pas si vite. La propitiation. C'est la propitiation. Après l'expiation, c'est la propitiation. Propitiation, un sacrifice qui rend propice. Le sacrifice qui me rend Dieu propice. Le sacrifice qui fait que Dieu m'est propice. Donc si Dieu m'est propice, il me fait grâce. Amen. Nous sommes sur le terrain de la grâce. Qu'est-ce que c'est ? Faveur imméritée que Dieu nous accorde en vertu de son amour pour nous. Amen. Et puis, on a vu qu'après la propitiation, nous avons été amenés sur le terrain qui découle autant de la justification que de la réconciliation. Et puis, on a compris que derrière l'expression m'a habillé du manteau de la délivrance, eh bien, nous sommes sur le terrain général si important de notre âme qui est habillée de la justice de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous rappelez-vous, dans la Genèse, après la transgression et la séparation causée par le péché, quand Dieu est venu, il a posé la question, « Adam, où es-tu ?» Mais Adam s'était caché, puis il avait estimé que, puisque le figuier était un arbre du jardin, les feuilles étaient convenables pour qu'il puisse se confectionner un vêtement. Mais à force, eh bien, le figuier ne porte pas des feuilles toute l'année. Hein. Il y aurait bien un moment où il n'y aurait plus de feuilles dans le figuier, même si ça avait duré un temps. Mais à un moment donné, mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a pris la peau d'une bête et Dieu leur a confectionné des vêtements de peau pour qu'ils paraissent en sa présence. Nous sommes sur le terrain non seulement de ce que Dieu pourvoit par un sacrifice, mais il habille sa créature pour que nous puissions nous présenter ce matin en sa présence. Et ce matin, c'est parce que notre âme rachetée est habillée de la justice de Christ que nous pouvons être présents pour rendre le culte à notre Dieu. Certes, nous avons mis le vêtement nécessaire pour le corps, mais ce vêtement-là n'est pas agréé devant Dieu. C'est la justice de Christ qui habille mon âme. Mais pour que mon âme soit habillée de la justice de Christ, il faut d'abord qu'elle soit sauvée, le salut, qu'elle soit placée au bénéfice des actes rédempteurs, la rédemption et tout ce que je viens d'énumérer devant vous. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, mon âme, comme le psaume 103, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est la reconnaissance. La raison, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. Dans les temps à venir, si Dieu le veut, nous allons nous arrêter sur les blessures de l'âme. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va nous amener sur un terrain haut, qui est assez particulier, très subtil, mais qui cependant eh bien, va répondre à certaines attentes de certains enfants de Dieu. Je laisse le Saint-Esprit me conduire dans ce sujet-là, car c'est quelque chose qui n'est pas commun dans les églises, mais si le Seigneur permet que cela soit abordé, exploré, ce n'est jamais sans raison. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes des serviteurs du Christ. Et lorsque nous venons en chair, je pense pour ma part, il faut qu'au préalable, le Saint-Esprit me donne la pensée de Dieu. Car c'est un moyen de venir devant le peuple de Dieu, dans la présence de Jésus, et de ne pas raconter n'importe quoi, ni donner un flot de paroles. Non, 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 que le Saint-Esprit maintenant donne les paroles appropriées. Alléluia, qui conviendront comme ce matin. Marc 6, verset 1er.
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient. Trois questions. Première question, d'où lui viennent ces choses? Deuxième question, dans lequel sont regroupées deux questions dans la même phrase. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Et puis troisième question, dites avec moi, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Encore, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et puis, la suite de la pensée nous amène à lire, et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents, et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et puis la conclusion, et il s'étonnait de leur incrédulité. Notre Seigneur Jésus-Christ est en plein dans son ministère. Et dans son ministère, béni soit Dieu, le témoignage qu'a rendu dans la maison de Corneille l'apôtre Pierre, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans les débuts de Matthieu, la Bible nous dit, Matthieu 4, que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Partout où le Seigneur Jésus-Christ se trouvait, les miracles éclataient comme jamais. Satan était terrassé. Dieu était glorifié. Les âmes se tournaient vers ce Sauveur merveilleux. Mais il y avait aussi de l'incrédulité. Il y avait aussi de l'opposition par le monde religieux. Il y avait de l'opposition dans le groupement appelé le Sanhédrin. Car le Sanhédrin, c'était un groupement politico-religieux qui regroupait les gens influents du pays. C'était des gens d'un certain cadre social. Beaucoup d'entre eux étaient des riches. C'était des gens qui ne se mélangeaient pas avec la population. Mais il y a une grande différence entre eux et notre Seigneur Jésus-Christ. Voulez-vous que nous le retrouvions, Jésus, dans la maison de Lévi? Il passe au péager et voit Lévi, dit, Lévi, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Et comme cela arrivait quelquefois pour honorer Jésus, dans la maison de Lévi, un grand festin. Et comme c'était le cas de l'époque, des publicains et des gens de mauvaise vie sont venus se mettre à table avec Jésus.
Quand les pharisiens ont vu cela, ils ont posé la question, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Publicains, personnages peu fréquentables du temps de Jésus. Pourquoi? Parce que c'était des collecteurs d'impôts à la solde des Romains qui collectaient les impôts sur les Juifs, mais pour les Romains. Ils étaient considérés comme des collabos, collaborant et pactisant avec l'ennemi. Considérés, malheureusement, comme ceux qui mettaient la main dans la caisse. Donc, ils n'étaient pas réputés pour être de bonnes personnes. Mais justement, Jésus les accueillait à table. Alors, Jésus a répondu à la pensée des pharisiens. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors allez et apprenez ce que signifie la pratique de la miséricorde. Gloire à Dieu. Si Jésus accueillait les bien portants et ceux qui sont saints, ni vous ni moi nous serions sauvés. Mais il est venu chercher les pécheurs. Et parce que nous étions au rang des pécheurs, non seulement il a payé pour nous racheter, mais il s'est arrêté sur nos misères, pour nous faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à Dieu, et de nous permettre enfin de quitter la main du destructeur pour revenir trouver le refuge sous la main du Créateur. Amen. Oh, comme Jésus est bon ce matin. Est-ce qu'il est bon pour toi, mon frère? Est-ce qu'il est bon pour toi, ma sœur? Oui, Jésus est bon pour nous ce matin. Alors là, la Bible nous dit que le maître, celui qui faisait des miracles, qui était en plein dans son ministère, voici que, en action, des questions se posent à son égard. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Ce sont des paroles qui dénotent la dimension de l'ignorance de ceux qui posent ces questions-là. Oh, moi je ne les juge pas. Parce que avant que Jésus ne se révèle à moi, à vous, à nous, nous étions semblables à eux. Mais c'est ça la grâce de Dieu. Dieu nous a révélé Jésus-Christ. Et en nous révélant Jésus, il nous a révélé aussi le salut en Jésus-Christ. Alors, leur déclaration, n'est-ce pas le charpentier? Et c'est ce qui va être le fil conducteur de notre message ce matin. N'est-ce pas le charpentier? Jésus est le charpentier. Charpentier, parce que Jésus est le premier-né d'une famille. Joseph est son père adoptif. Marie est sa mère. Et comme cela se faisait pour l'époque, le fils premier-né apprenait le métier du père. Alors Jésus a appris le métier de charpentier. Il n'est pas devenu charpentier comme ça. Il a appris avec son père adoptif. Pourquoi? Parce que pour l'époque, être charpentier, c'était non seulement quelque chose qui était non seulement honorable, mais il y avait une palette de possibilités qui s'offraient à vous, puisque le charpentier avait, dans l'époque, eh bien, une grande responsabilité sur le plan de la construction des maisons. Alors, je vais laisser Jésus ce matin, le charpentier, non pas construire ma maison, non pas construire ta maison, mais nous allons basculer sur le plan spirituel. Nous allons laisser Jésus travailler dans nos cœurs ce matin. Et la première chose que nous allons regarder, le charpentier, l'une de ses compétences premières, c'est que le charpentier avait la connaissance du bois.
Le charpentier avait la connaissance du bois et il était aussi calé dans le choix du bois. Et le choix du bois, fort souvent, était décisif quant à l'ouvrage qu'il voulait réaliser. Pour l'époque, il y avait des bois qui étaient des bois illustres. J'ai noté le bois de cèdre, j'ai noté le bois d'acacia, j'ai noté l'orme, j'ai noté le cyprès. Enfin, beaucoup de bois qui étaient importants pour l'époque et qui servaient autant à la construction des maisons, mais aussi à d'autres choses. Et si je vous dis qu'il devait connaître le choix, le bois, et il avait le choix, eh bien, laissez-moi vous dire que le Seigneur parle dans ce cadre-là, sur le plan du choix. Si vous regardez l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, il dit à ses apôtres, ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Mais c'est moi qui vous ai choisi. Non seulement je vous ai choisi, mais je vous ai établi. Pourquoi ? Afin que vous alliez. Pourquoi ? Et que vous portiez du fruit. Afin que tout ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce matin, tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas devenu un chrétien parce que tu as une bonne tête. Tu es l'objet du choix de Dieu. Je ne connais pas de quelle famille tu es issu. Je ne connais pas ton passé. Je ne connais pas non plus ton présent. Oh, je le connais un petit peu en partie parce que tu es là, je te vois. Je ne connais pas ton futur, Dieu le sait. Mais si je regarde l'Écriture, et si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Il y a un qui n'est pas content et qui va te combattre. Mais il y a un qui se réjouit parce que tu es dans son plan et tu es dans sa main. Ça te fait plaisir? Alors donne gloire à Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je vous ai choisi. Et quand moi je m'arrête un petit peu, non pas sur vous, sur moi, frère Claude, je dis, Seigneur, mais moi qui ne te cherchais pas, moi qui vivais ma vie à 200 à l'heure comme bon me semblait, moi qui n'avais pas de temps pour Dieu, ça ne m'intéressait pas. J'avais ma petite vie religieuse, ça me suffisait. Ah, mais Seigneur, quand je regarde d'où tu m'as sorti, comment tu t'es révélé à moi, parce que la révélation de Jésus pour moi était quelque chose de magistral. Il n'y aurait pas de moi assez grand pour qualifier l'expérience de la révélation de Jésus. Comment dans sa grâce, il a brisé les liens qui me retenaient captifs. Il a brisé les verrous de fer. Il a battu les portes des reins pour permettre à mon âme de s'échapper comme l'oiseau s'échappe du filet des oiseleurs et trouver en Jésus le vrai repos. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Oh, le pasteur ne s'excite pas. Ne croyez pas ça. Mais c'est ma manière de glorifier mon Dieu. Car lorsque vous êtes objet de sa grâce, que le Saint-Esprit vous fait réaliser un tout petit peu ce à quoi vous avez échappé, le jugement et la condamnation, alors toute votre existence sur la terre, vous bénirez l'Éternel. Oh mon Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci. Alors, étant l'objet de ce choix, je vous ai donné ce premier verset, mais vous pourriez rajouter 2 Thessaloniciens 2:13. C'est un peu le même principe, la sanctification de l'Esprit, c'est-à-dire la mise à part du Saint-Esprit par le choix divin. Et puis vous pourrez aussi rajouter, pour ceux qui prennent des notes, 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 2. 1 Pierre 1, 2. Mais une fois que le matériau est choisi en fonction de l'œuvre à réaliser, mais le charpentier avait besoin d'un élément fondamental qu'on appelle un établi. Et c'est à partir de cet établi qu'il allait pouvoir maintenant travailler la matière. Pourquoi un établi? Parce que sur l'établi, la pièce de bois était immobilisée.
C'est-à-dire, quand Dieu choisit quelqu'un après, pour le façonner, il a besoin de l'avoir sur la main.
Ce n'est pas qu'il vous bloque, mais il va créer des circonstances pour un peu vous mettre à l'écart. Parce qu'il a besoin de vous avoir sur la main pour vous travailler. Et pour vous travailler, il a des méthodes qui sont les siennes. Vous travaillez, il a cette capacité d'éloigner toute main étrangère. Vous savez comment Jérémie le prophète, dans ses lamentations, explique un peu ce qu'il a vécu. Dans Lamentations 3, il dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Et il dit cela en fonction du travail de Dieu qui, lorsqu'il agit dans son serviteur ou par son serviteur ou avec son serviteur, il dit, il se tiendra solitaire et silencieux. Il mettra son nez dans la poussière, mais sans perdre toute espérance. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu vous met à part pour vous travailler. Il écarte toute influence extérieure. Et il vous met là tout seul. Il a besoin de vous rencontrer. Il a besoin d'avec vous une rencontre spéciale et personnelle. Et c'est là l'image de la pièce de bois sur l'établi. Il va commencer à le travailler, le charpentier ou le menuisier, c'est le même processus. Il va raboter. Raboter parce qu'il a en vue de mettre tout au même niveau. Alléluia. Oh, si nous sommes dans la main du Seigneur, le divin charpentier, mais il y a des choses qu'il doit raboter en nous. Il y a des bosses qu'il doit enlever, mais il y a aussi des creux qu'il doit combler. Il a ses méthodes. Mais encore faut-il que je sois dans sa main. Est-ce que tu es dans sa main ce matin? Oh, il y a quelques amen et passes qui sortent, mais le Seigneur voudrait que l'ensemble de son peuple dise amen. Oui, Seigneur, je suis dans ta main. Oh, Seigneur, je ne comprends pas toujours ce que tu fais. La pièce de bois sur l'établi ne comprend pas toujours ce que fait le charpentier. Mais peu importe qu'il comprenne ou pas, le résultat, c'est la finalité de l'ouvrage. Et l'utilité, il va en faire. Alors, première pièce que nous allons regarder dans l'ouvrage que veut confectionner le charpentier, c'est lui qui avait la compétence pour l'époque dans son métier, c'est lui qui avait la responsabilité, premièrement, de faire la charpente des maisons. Les maisons avaient des charpentes en bois. Et il fallait une compétence particulière pour prendre les mesures, adapter, faire. Enfin, je ne connais pas. Il y avait des pièces qui étaient posées comme ça, avec des rivets en bois. Enfin, tout un tas de compétences qui, chacune mise en place, permettait que la charpente soit réalisée. Si Jésus ne bâtit pas la charpente de ta vie spirituelle, obligatoirement, tôt ou tard, il y aura des choses qui n'iront pas. David dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti, il travaille. Et je me suis laissé aller à penser que pour bâtir une maison, ça ne se fait pas en un jour. Mais c'est un travail au quotidien, un travail progressif qui nous met sur le terrain de la persévérance et un travail aussi de « Allez, aidez-moi !» de « Allez, dites-le plus fort !» Travail de patience. Il ne faut pas le dire dans le nez, il faut le dire à haute voix. Gloire à Dieu. C'est lui qui avait la compétence pour bâtir la charpente des maisons. Et quand le Seigneur commence dans une vie à bâtir avec des matériaux qui sont les siens, ce qu'il commence dans ta vie, la charpente de ta maison sera résistante aux intempéries. Elle va résister aussi parce que le bois est conséquent aux vermoulures. Elle va résister aux insectes qui sont, comment ça s'appelle, xylophages, c'est ça? Oui, xylophages qui aiment le bois. Xylophages, c'est ça. Ah, merci Seigneur, je l'ai trouvé. Insectes xylophages commencent déjà à travailler le bois. Cela veut dire que avec ce bois-là, tu n'as pas besoin d'aller chez ceux qui vendent des produits pour traiter ton bois. Le charpentier sait le faire à bon escient. Et il y a un bois qu'on appelle le bois d'acacia. Quand celui qui l'utilise, eh bien, le choisit, il sait qu'avec ce bois-là, il va réaliser des ouvrages particuliers. Parce que le bois d'acacia, c'est un bois qu'on appelle imputrescible. Il résiste à toutes les intempéries, y compris à l'eau. Vous comprenez pourquoi il poussait dans le désert? Parce qu'Israël traversait le désert, et dans le désert, le bois d'acacia poussait. Donc ils pouvaient le prendre lorsqu'ils étaient arrêtés pour construire des tentes et pour pouvoir construire selon ce que Dieu demandait. Ce qui nous montre que quand Dieu demande quelque chose à son enfant, finalement c'est lui qui vous met sur le terrain où vous allez trouver de quoi faire ce qu'il vous demande. Charpente des maisons, si Christ est le charpentier qui bâtit la charpente de ta maison, alors toute la structure va tenir debout. Les vents vont souffler. Il y aura des tempêtes, des raz-de-marée. Il y aura de l'opposition. Mais puisque c'est Jésus qui bâtit, alors ta maison va tenir debout. Finalement, la maison, c'est ta vie chrétienne. Un autre ouvrage dont le charpentier avait aussi la charge. Car pour l'époque, c'était important puisque lorsqu'il fallait faire le labour, il n'y avait pas de tracteur, il n'y avait pas de bulldozer, il n'y avait pas de tracteur à chenilles. Le labour se faisait avec des bœufs. Et les bœufs devaient être attelés, et dans l'attelage des bœufs, le charpentier avait la compétence pour construire des joues. Le joug. Qu'est-ce que le joug, pasteur Gentil? Pièce de bois confectionnée, destinée à être mise sous le cou du bœuf, afin d'y atteler la charrue. Donc imaginez que le maître, le charpentier, ait à construire un joug pour un bœuf, ou des jougs pour des bœufs. La première chose qu'il faisait, il fallait qu'il prenne la mesure de la largeur du cou de la bête. Car si le joug était trop petit, pas adaptable. S'il était trop large, problème aussi, Une fois mis sous le coup du bœuf, les bœufs partaient de travers. Donc il fallait que le joug soit à la mesure du cou de la bête et adaptable sous les deux bœufs en même temps pour faire un travail efficace. Savez-vous ce que Jésus nous dit dans Matthieu 11, 29? Non, vous ne savez pas. Mais moi, je vais vous le dire, moi. Prenez mon joug sur vous. Ça veut dire le joug de Jésus doit être sous le coup de mon âme. Et recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Cela veut dire qu'une fois que Jésus met sur le cou de mon âme son joug n'est pas pesant, son joug est doux et son fardeau est léger. Et puis, une fois que le joug de Jésus est sur le cou de mon âme et que je dois œuvrer avec une tierce personne qui est à côté de moi, c'est un joug pour nous deux. Lui, il a le joug sous son cou, et moi, j'ai le joug sous mon cou. Et désormais, nous sommes appelés à œuvrer ensemble, à travailler de concert. Mais pour travailler de concert, nous avons besoin, mon frère. Mais oui, on a besoin du joug, mais le joug sans l'instruction ne sert de rien. J'ai besoin du joug de Jésus, mais j'ai besoin des instructions pour savoir comment agir. Son joug n'est pas pesant. Son joug, c'est un joug d'amour. Quand il me donne une instruction, le succès est assuré. Si je me dirige d'après son instruction, il n'y a pas d'échec. Au contraire, il me parle de l'acceptation de son joug qui est doux, accompagné de son fardeau qui est léger, et puis il me dit, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? En principe, quand on a un joug, ça veut dire qu'on sait qu'il faut travailler. Mais travailler pour Jésus, c'est un vrai repos. Où sont ceux ce matin qui travaillent pour Jésus? Levez la main. Et pardon, excusez-moi. Oui, je veux travailler pour le maître. Mais pour travailler efficacement, il faut que son joug soit sous le cou de mon âme. N'est-ce pas le charpentier? Mais pour moi, le charpentier spirituel. Ce n'est pas que je reste sur le plan humain. J'ai accepté le joug de Jésus. Et désormais, alors, soit avec mon frère, nous marchons le même pas pour le travail du maître. Deux hommes marchent-ils ensemble s'ils n'ont pas convenu? J'ai convenu de marcher avec mon frère. Parce que nous avons le même maître. Nous travaillons pour le même patron. C'est le même charpentier qui a mis son joug sous le cou de nos âmes. Donc, nous sommes sur le terrain de l'importance de marcher du même pas, du pas de l'unité, pour que Dieu soit glorifié au travers du service que nous sommes appelés à accomplir pour sa gloire. Est-ce que ta maison tient debout ce matin? Puisque Jésus est le charpentier qui construit la charpente. Ouh! Est-ce que tu as pris sur le cou de ton âme le joug de Jésus qui est doux? Accompagné de son fardeau qui est léger? Oui, alors tu as le repos pour ton âme. Voulez-vous que nous voyons une troisième chose que le charpentier aussi avait comme responsabilité dans le cadre de la construction? Oui. Vous n'êtes pas tellement motivé, hein? C'est quoi que vous le voulez? Amen. Merci, frère. Mais la troisième chose, eh bien, elle va accompagner les deux premières.
C'est ce que nous appellerons, et cela va nécessiter aussi, comme pour le joug, la prise de mesure, en vue d'une adaptation efficace. C'est le charpentier qui faisait aussi les roues destinées aux charrettes. Dans ce temps-là, il n'y a pas de voiture à pétrole ni à essence. On se déplace en charrette. Et la charrette est utile pour le transport des marchandises attelées, soit avec des ânes ou des bœufs. Mais il fallait bien qu'il y ait les roues. Et pour atteler la charrette avec des roues, mais le charpentier devait d'abord prendre la mesure. Il avait tout un système par sa connaissance et ses compétences pour pouvoir tourner le bois d'une manière particulière avec des rayons et puis il fallait mettre un centre pour pouvoir fixer la roue. Enfin, tout un programme qui serait intéressant à considérer ce matin, mais qui malheureusement, à cause du temps qui nous manquerait, eh bien, mais je vais aller à l'essentiel. Les roues devaient avoir la même mesure. Alors, si vous attelez une charrette avec deux roues, elles sont différentes, qui ne sont pas de la même dimension, votre charrette bascule d'un côté, droite ou à gauche. Mais quand les deux roues sont de même dimension, votre charrette est équilibrée, stable. Frères et sœurs en Christ, quand Jésus bâtit dans nos cœurs et dans nos vies, comme le charpentier spirituel, plus Jésus bâtit, plus il me donne de l'équilibre. Vous savez que dans les églises, il y a beaucoup de déséquilibrés. Mais en tant que pasteur, j'ai vu certaines personnes qui avaient des attitudes et surtout des réflexions qui n'étaient pas du tout glorieuses devant Dieu. Excusez-moi, je vais peut-être vous étonner, mais savez-vous que le déséquilibre spirituel existe aussi? Et s'il y a un déséquilibre spirituel qui s'installe, ça veut dire qu'il y a une main étrangère qui s'y est mise. C'est plus Jésus le charpentier qui bâtit dans ta vie. Tu as laissé une tierce personne sous couvert évangélique mettre la main sur toi et commencer à mener dans ton cœur et dans ta vie des choses qui sont étrangères. Faut souvent étrangères à la secte doctrine de Christ qui est selon la piété. Dans le milieu évangélique aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines étrangères qui parcourent certaines églises, qui s'infiltrent, qui s'installent, qui font des émules. Il n'y a pas la langue, le désordre s'installe. Et bien ici, par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas qu'il y ait de désordre évangélique. Nous voulons que la doctrine de Christ qui est selon la piété soit le centre et le fondement de l'Église. Et tant que c'est comme ça, vous êtes en sécurité. Le pasteur est en sécurité, l'Église est en sécurité parce qu'elle est fondée sur les Saintes Écritures. Et que personne ne me dise, pasteur gentil, c'est Paul qui a dit. C'est un tel qui a dit. Quand le Paul dont vous dites que c'est lui qui a dit, moi je vous dirai qu'ailleurs, il a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Ben oui, ils disent, mais c'est Paul qui a dit. Parce qu'il était ceci, il était misogyne. Enfin, toutes sortes d'attributs pour essayer de se justifier. Mais ça ne marche pas ici. Voulons ce que Dieu dit. Et quand Dieu le dit, je ferme ma bouche et je l'applique. Et je le prêche, surtout. Quand le maître construit les roues applicables pour être placé sous la charrette, c'est les mêmes mesures. Et si les mêmes mesures, il y a l'équilibre. Et s'il y a l'équilibre,
obligatoirement, la charrette peut avancer efficacement. Eh bien, nous sommes sur le terrain de la persévérance. Oh, plaise à Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Comme a dit l'épître de Paul aux Philippiens, l'apôtre le dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et quand je vous dis la rendra parfaite, je ne suis pas un illuminé. Dieu me donne l'esprit en éveil, mais aussi il me donne l'intelligence renouvelée. Je n'ai pas besoin de gratter dans la vie de quiconque, je n'ai qu'à regarder dans la mienne. Malgré nos tares, malgré nos lacunes, malgré nos manquements, il a commencé son œuvre et il la poursuit. Gloire à Dieu. Oui, Jésus est le divin charpentier ce matin. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Joseph, fils de Marie? Mais il ne voyait pas qu'en lui habite la plénitude de la divinité. Le Fils est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne et le reflet de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Gloire à Dieu. Ah, il nous met ce matin sur son établi. Il a du travail à faire en nous. Mais si nous le laissons faire, le résultat ne sera que plus probant, parce que le résultat sera pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu. Bien, alors, je vais tout de suite vers la conclusion, et puis je regarde la pendule, je regarde aussi les notes. Alors je vois que ce charpentier, en plus de la charpente de la maison, si nous revenons à la maison, c'est lui qui avait aussi la compétence pour construire des escaliers. Il avait la compétence pour construire des escaliers. Quand on construit un escalier, fort souvent on part toujours du bas pour monter vers le haut. On ne part jamais du haut pour descendre vers le bas. On part du bas et puis on construit pour monter vers le haut. Eh bien, cela nous parle en image spirituelle de l'importance. Quand Jésus, le divin charpentier, bâtit dans nos vies, eh bien, il établit progressivement l'escalier qui nous mène dans la communion avec le Père. Tout à l'heure, je vous expliquais la parole de Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et transporté. Donc, il nous met sur les hauteurs. Mais si Jésus me met sur les hauteurs, encore faut-il que j'y demeure. Mais quelquefois, je suis obligé de descendre parce qu'il y a des choses à régler ici-bas. Mais l'escalier qui me permet de monter, c'est le même qui me permet de descendre. Eh bien, il y a un moment où je dois monter, chercher la communion avec mon Dieu. Mais plus je suis en communion avec mon Dieu, je dois descendre pour être en communion avec mon frère. Alléluia. C'est là la capacité d'exhorter les uns les autres, car exhorter n'est pas autre chose qu'encourager par la parole de Dieu. Et l'exhortation conduite, inspirée par le Saint-Esprit, ce n'est pas faire des litanies, ce n'est pas faire des leçons, ce n'est pas faire des remarques, ce n'est pas se penser supérieur, c'est la pratique de la miséricorde accompagnée de la compassion. Et puis, en toute compétence, dans l'intérieur de la maison, c'est le même charpentier qui aussi faisait des portes, faisait des fenêtres, faisait aussi des cloisons pour séparer les chambres. Enfin, un champ de compétences qui lui était réservé avec des capacités. Les cloisons,
nous parlerait en image spirituelle de l'importance de savoir se séparer par la sanctification. La fenêtre, vous regardez au dehors, il y a des âmes qui se meurent. Daniel, lorsqu'il priait Dieu, la fenêtre était tournée vers Jérusalem, malgré qu'il était en déportation. On n'est pas à Jérusalem, on est à Paris. Mais le charpentier nous donne, c'est dans sa construction, permettre que la fenêtre de nos cœurs s'ouvre, que nous voyons qu'il y a encore des âmes à sauver, des âmes qui se meurent. Lamentation de Jérémie, il commence par une série de déclarations. Et quoi ? L'or a perdu son éclat ? Mais si l'or perd son éclat, il y a un problème. Parce que l'or, c'est un métal brillant. Mais il dit que l'or a perdu son éclat. Et il va prendre cette image. Les nobles fils de Sion, semblables à l'or pur, eh bien, les voici semblables à les balayures des rues. Ça, c'est une anomalie innommable, inconsidérable devant Dieu. Il y a quelque chose qui a cassé, quelque chose qui s'est installé, mais qui ne devait pas être. Et il continue, les enfants demandent du pain, mais personne ne leur en donne. Eh bien, nous, par la grâce que Dieu nous fait, nous avons reçu un double pain. Jésus est le vrai pain de Dieu, pain vivant descendu du ciel, qui communique la vie au monde. Mais Jésus, pain de vie, il entretient sa vie en moi, en vous, en nous, par le Saint-Esprit. Donc nous n'avons aucune raison de nous taire. Nous avons reçu du pain, et nous avons reçu du pain avec abondance. Alors le garderions-nous pour nous ? Mangerions-nous tout le pain ? Jusqu'à pointe du poids et gonfler outre mesure? Non! Nous avons un témoignage à rendre. Et si Dieu nous a laissés sur la terre après être entrés dans le salut, c'est pour que dans la même sphère où nous avons porté les œuvres de la chair, Dieu nous utilise pour porter le fruit de l'esprit. Certes, nous disons Amen. C'est bien de dire Amen. Mais il faut que cet amen soit accompagné d'une réalité spirituelle dans laquelle je suis entré, dans laquelle je vis, et que cette réalité-là, au travers elle, Dieu est glorifié par le témoignage que j'envoie à la personne de son Fils Jésus-Christ. Enfin, ça, c'est dans ce cadre-là, chacun est à son niveau. Hein? Parce que gentil ne juge personne, Dieu ne m'a pas établi pour être juge, mais établi pour prêcher sa parole. On conclut. Cloison, escalier, fenêtre, et puis la porte. La porte, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur les portes de Jérusalem et les leçons spirituelles qui y sont applicables pour l'Église et pour chacun d'entre nous. La porte des brebis, la porte des poissons, la porte de la vallée, la porte du fumier, la vieille porte. Samedi, mardi, nous étions sur la porte de la source, à qui nous avons associé la porte des eaux. Mardi, si Dieu veut, nous allons voir la porte des chevaux. Amen. Alors, concluons. La porte, nous avons compris. Eh bien, ça nous montre la capacité d'entrer et de sortir. Mais cette capacité aussi de fermer la porte quand il faut, de l'ouvrir quand il faut. Ouvrir ou accueillir les enfants de Dieu que le Seigneur met sur ma route. Fermer à tout ce qui est étranger. Fermer à tout ce que Satan enverrait. D'où l'importance du discernement spirituel. Mais pourtant, pour l'enfant de Dieu que je suis.
Bonjour mon frère. As-tu la certitude que c'est un frère ou une sœur? Parce qu'il a une bonne tête, parce qu'il présente bien, c'est un frère. Mais méfie-toi parce qu'il se peut que ce soit un loup dans la bergerie. Méfie-toi parce qu'il peut venir au sein du peuple de Dieu en manteau de brebis, mais à l'intérieur c'est un loup ravisseur. Il vient avec une attitude sournoise. Peut-être même ce matin qu'il y en a au milieu de nous. Mais moi, je suis chargé de vous dire de la part de Jésus que les méchants ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. Cette assemblée, c'est Jésus qui l'a bâtie. Vous pouvez essayer de tromper les pasteurs, les anciens, les frères, mais vous ne tromperez jamais Jésus. Sur ce, je ferme la parenthèse. Prions le Seigneur. N'est-ce pas le charpentier ? Oui, c'est le charpentier, mais mettons-y le divin charpentier. Parce qu'il ne travaille pas autant le bois, mais il travaille dans le cœur ce matin. Amen. Mon doux Jésus, voilà, je te remercie ce matin. Tu as vu, mon Seigneur, j'étais embêté. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as rien donné, qu'est-ce que je veux faire? Oh Seigneur, comme tu es merveilleux. Tu n'as pas besoin, Seigneur, d'une année pour donner ta pensée. Et quand tu donnes ta pensée, elle arrive toujours au bon moment. Elle arrive au bon endroit et elle fait son bon effet dans les cœurs. Merci. Merci, mon Seigneur. Mon Seigneur, je m'humilie devant toi. Je répands mon âme pour t'adorer. Car mon âme, c'est toi qui l'as sauvée. C'est toi qui l'as rachetée au prix de ta vie au moyen de ton sang. Et je ne puis ce matin que me réjouir de la grâce, Seigneur mon Dieu, que tu m'as faite un jour d'entendre ta voix. Oui, tu es le divin charpentier dans ma vie. Et je sais qu'une chose, c'est que quand toi tu commences un travail, ce que tu commences, tu le poursuis, et ce que tu poursuis, tu l'achèves. Père, je t'adore. Seigneur Jésus, je t'adore. Amen.